RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story, la radio et la télé pour les GG. Et si vous l'avez raté, vous avez les podcasts à votre disposition. Et dans les podcasts, vous aurez notamment Charles Consigny qui raconte le vol de son scooter. C'était ce week-end.
Scène de la vie quotidienne en France.
Je vous laisse découvrir ça
la
dans les
France
podcasts.
La France de 2026, la France en grand, la France ensemble.
Joël Dagosséry, coach de vie, Charles Consigny, avocat, Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie. On attaque la troisième heure des GG. Faut-il stopper l'immigration pendant 3 ans? C'est une proposition de Gérald Darmanin. Venez en discuter avec nous au 32-16.
Si on veut un débat qui consiste à dire, par exemple, imaginons une suspension d'immigration pendant 2-3 ans. On pourrait imaginer cela. Monsieur Barnier avait parlé de moratoire, pourquoi pas? La contrepartie, c'est qu'il y a une augmentation des salaires pour que les métiers qu'aujourd'hui, ce que Marx appelait l'armée de réserve, que les étrangers font à très peu de frais, et ben ce soit les étrangers en situation régulière ou les Français qui le font.
Vous y seriez favorable à ça?
Oui.
Un moratoire?
À une suspension, oui. Suspension pendant 2-3 ans. On peut trouver quelques exceptions, notamment pour les médecins, pour des chercheurs, pour quelques étudiants. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faudrait demander aux Français directement la politique des quotas pour dire combien vous voulez, c'est ce que font les Canadiens.
Alors, c'est chez nos confrères d'LCI face à Rochebain, c'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui propose donc un moratoire sur l'immigration, un stop de 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que vous en dites? C'est au 32-16 que vous ne faites part de votre opinion.
Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit qu'il y a entre 600 000 et 800 000 immigrés clandestins qui arrivent chaque année en France. Il donne des chiffres qui sont un peu plus précis que ceux de Laurent Nunez, qui hésite. Laurent Nunez, il a des pudeurs de gazelle parce qu'il veut pas alimenter, dit-il, les discours de l'extrême droite. Donc, quand on interroge le ministre de l'Intérieur actuel, il a du mal à donner des chiffres. Alors, bien sûr, par définition, l'immigration clandestine, ce sont des fourchettes. On n'a pas de chiffres précis puisque ce sont des clandestins. Mais lui, Gérald Darmanin, qui a la particularité d'avoir été à la fois à l'intérieur et qui est aujourd'hui place Vendôme, dit entre 600 et 800 000 chaque année. Donc, il dit, on ne peut plus absorber autant d'immigrés. Donc, fermons la France pendant 2-3 ans à l'immigration légale. L'immigration légale, c'est entre 200 et 300 000 chaque année. Pour absorber ceux qui sont là, et ensuite, on verra dans 2-3 ans. Il nous explique qu'on aura quand même sans doute besoin d'immigrés toujours pour certains secteurs en tension. La médecine, maintenant, c'est un secteur en tension, la restauration, etc. Mais ailleurs, si on paye mieux les gens, on n'aura pas besoin de faire venir des gens de l'étranger. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec ce que propose Darmanin, qui par ailleurs dans la même interview a dit qu'en 2027, il y pensait, hein, et il soyait bien candidat.
Ça, on voit bien. Alors, moratoire ou pas moratoire, Joël?
Bon, ça c'est de la gesticulation politique. Voilà. Ah bon? Oui, ça c'est de la gesticulation.
Pourquoi?
Non seulement c'est de la gesticulation politique, mais en plus, c'est pas une politique migratoire, ce qu'il me raconte là. Il te dit, on va geler donc l'immigration pendant 3 ans, mais en même temps, excepté peut-être des médecins, des trucs. Donc en fait, on gèle pas toute l'immigration pendant 3 ans. Donc en fait, on ferait de l'immigration choisie. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire choisir les immigrés dont la France a besoin et le reste non. Donc je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ce qu'il vient de dire? Qu'on devrait geler l'immigration, alors qu'en fait il devrait y avoir des exceptions. Enfin, je comprends pas comment ces gens peuvent communiquer comme ça.
C'est pas sérieux, c'est pas précis.
C'est pas sérieux. L'immigration, c'est pas bouton on off. On, off, on, off.
Lui, il est
off.
Plutôt non, pour la politique des quotas à terme.
Oui, mais...
Ça, on en parle depuis
La vraie politique, c'est de savoir, écoutez, nous, on veut attirer tel type de talent. Tous les pays développés qui se développent, les États-Unis y compris, qui ont une politique assez ferme, on en a parlé tout à l'heure, sur l'immigration, font des ponts d'or à des personnes qu'ils estiment être des talents. Donc, en fait, ils veulent de l'immigration. Donc, c'est ça qu'on doit faire. C'est pas juste dire, ah bah oui, immigration
ça,
zéro pendant 3 ans. Pardon?
Il l'a dit.
Bah
oui, il l'a dit.
Oui, mais c'est pas.
Exactement ce qu'il a dit.
Oui, mais c'est bien
mais
ce que je dis. Oui, mais c'est bien ce que je dis. Ce n'est pas de l'immigration zéro. C'est pas un gel.
Ça n'existe pas, l'immigration zéro.
Oui,
bah
donc,
très bien.
Il faut arrêter de nous dire. Non, parce que. Non, mais c'est une communication de tout et son contraire. Nous devons geler l'immigration.
Non, mais d'accord, on a compris.
oui,
mais quatre fois que tu dis
oui,
bah, le truc.
Mais apparemment, vous comprenez 600 000, pas comment c'est problématique.
Non, mais entre 600 000, entre 600 000 et 800 000 et tomber à 50 000, c'est pas la même chose quand même.
Et en quoi ça, ça empêche l'immigration clandestine?
Bah,
en quoi ça, ce qu'il vient de proposer, ça bloque l'immigration clandestine?
En fait, il nous explique pas comment il bloque l'immigration clandestine.
Rien.
Non, elle est censée déjà être bloquée par définition puisqu'elle est clandestine.
En tout cas, moi je trouve que c'est quand même une idée populaire. Ça m'étonnerait qu'on rencontre beaucoup de gens qui s'opposent à cette mesure. On voit bien
Jean-Luc Mélenchon.
Ça n'est pas être d'extrême
qui
droite,
le grand remplacement,
ni stigmatiser qui que ce soit, que de constater qu'une immigration trop importante, ça crée des déséquilibres dans la société. Ça, il y a pas besoin de. D'avoir sa carte dans je ne sais quel parti pour dire ça. Donc je pense que c'est plutôt une proposition bienvenue. Le problème, comme le dit très justement Joël, c'est est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est un propos d'estrade? C'est ça la question. Moi je pense que c'est faisable. Déjà l'immigration autorisée, légale, etc., on a quand même la main dessus. Et l'immigration incontrôlée, franchement, je ne vois pas pourquoi nous aurions à ce point tant de difficultés à contrôler l'immigration illégale. Je veux dire, je pense qu'on peut quand même mettre quelques moyens, se donner les moyens d'y arriver. Le problème, c'est surtout les fameux pays d'immigration, les pays vers lesquels on renvoie les gens en situation irrégulière. Quand, c'est ça le vrai
quand
sujet.
Quand on arrive à les renvoyer.
Non, mais c'est ça le vrai sujet.
Puisque
c'est
là,
ça le vrai
aujourd'hui,
sujet, c'est que les pays reprennent leurs ressortissants.
Avec les fameux laissez-passer consulaires, parce que regarde là l'histoire de ce Tunisien qui a violé une femme de 90 ans.
Mais je vois pas, je comprends pas.
Il était sous stupéfiant, il était sous OQTF, et en théorie sous contrôle judiciaire
je
aussi.
Je vois pas comment,
donc,
franchement,
on a pas réussi à le renvoyer.
Un pays puissant comme la France ne pourrait pas contraindre des pays qui sont quand même beaucoup moins puissants que nous à reprendre leurs ressortissants. Je pense qu'il y a un petit tour de vis à mettre aussi du côté de notre diplomatie et d'employer à nouveau un peu la manière forte. Mais je pense que c'est une bonne idée. En réalité, on en a besoin pour reprendre un peu le contrôle de tout ça.
Jean-Loup Bonamy.
Non, ouais. Il y a deux sujets tout à fait distincts. Il y a l'immigration illégale, clandestine, dont il n'est pas question ici, et l'immigration légale, abordé par le ministre, en sachant que l'immigration légale, c'est celle qui quand même constitue le plus gros flux, la plus grosse partie du flux total des immigrés. Et je pense que le ministre de la Justice a tout à fait raison, mais c'est pas pendant 3 ans qu'il faudrait la geler, c'est probablement plutôt pendant 30 ans.
Ah, carrément.
Parce que bah oui, parce que là, excuse-moi, ça fait à peu près
plus.
Bah oui, non, mais ça fait à peu près 40 ans qu'on a ouvert les vannes, et là, notamment, j'entendais Olivier Gisbert, qui expliquait que, en fait, depuis 10 ans, tu avais à peu près 7 millions d'immigrés qui étaient entrés en France. C'est des quantités qui sont absolument colossales. Colossales. Et d'ailleurs, je voyais dans la fameuse note sur les diasporas qui était remise au président de la République, c'est que la France, c'est la première diaspora musulmane, la première diaspora maghrébine, la deuxième diaspora turque d'Europe, la première africaine, la première de l'océan Indien. Enfin, tu vois bien qu'il y a une immigration qui est colossale et qui sature les services publics. Tu vois bien que l'école, par exemple, le nombre d'enfants qui ont des parents non francophones et qui ne parlent pas le français à la maison a explosé. Ça, ce sont des chiffres officiels. Tu vois bien que ça pose d'énormes problèmes. Tu vois que la société est sous tension. On peut pas d'un côté se plaindre en disant, oh là là, le Rassemblement National est haut, et de l'autre dire, ah bah, l'immigration, c'est super, alors que justement, c'est le ras-le-bol face à l'immigration qui fait monter.
Oui, Rassemblement national. De Jean-Luc Mélenchon, qui disait vive le grand remplacement, il faut que la France doit ressembler au grand remplacement. Il reprend d'ailleurs le terme de Zemmour en l'inversant, en disant que
c'est encore un autre sujet, mais tu ne peux pas accueillir. Et en plus, pour l'instant, il se trouve que, même si je sais très bien que nous accueillons des médecins étrangers, j'en connais et c'est très bien, globalement, l'immigration française, elle est quand même globalement non qualifiée. C'est-à-dire que tu reçois, en gros, c'est quoi l'immigration? C'est que tu reçois des gens globalement, alors on va me trouver des exceptions et c'est vrai, mais tu reçois globalement des gens du Maghreb et d'Afrique subsaharienne qui n'ont pas de diplôme. Voilà, c'est ça quand même la masse de l'immigration.
Il y a une surreprésentation de l'immigration au chômage.
Et après, on s'étonne qu'il y ait des problèmes. Oui. Donc, évidemment que là, on a fait n'importe quoi, que la situation qu'on a accumulée ces dernières années, excusez-moi d'être grossier, mais il y a quand même de forts risques qu'elles finissent par nous péter à la gueule et que toutes ces diasporas, ça finisse quand même dans un vaste chaos. Et donc, la première chose quand t'as un problème de stock, c'est de couper les flux et de ne pas encore grossir le stock par de nouveaux flux migratoires. Donc, gel de l'immigration pendant 30 ans. Merci.
30 Joël.
Ans. Bien sûr, parce que toi, à 30 ans, t'as une vision de ce que sera le monde. On n'a même pas de vision de ce que sera la France à 2 ans.
Même à 2 heures.
Oui, à 2 heures, t'as raison. Dans 30 ans...
C'est marrant de dire l'immigration pendant une
heure.
On nous dit qu'il faut valoriser le temps long. Je valorise le temps long.
Ouais, là, tu dévalorises l'éternité. C'est un peu différent. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas contrôler l'immigration. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire... Moi, je parle... Et c'est complètement normal. Ce que je veux dire, c'est que ce serait bien d'arrêter de communiquer n'importe quoi. Parce que quand tu commences par communiquer en disant gel de l'immigration, les gens entendent zéro immigration. C'est ce qu'ils entendent. D'accord.
Ça peut être un objectif.
D'accord, mais c'est ce qu'ils entendent. Mais derrière, quand tu dis accepté et que tu commences à faire des exceptions, finalement, on n'est plus dans zéro immigration. Donc,
oui,
on commence à rentrer.
Les exceptions qui sont listées sont des exceptions assez consensuelles.
Je suis d'accord. Donc, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle de l'immigration choisie.
Mais pourquoi ne pas dire, même si c'est très réduit,
pourquoi ne pas dire nous avons besoin d'une immigration choisie? Pourquoi tu dis pas ça? Tu dis pas ça parce que ça, c'est pas populiste. Ça, c'est pas
populaire.
C'est pas populaire.
Et parce que ça, c'est
un discours de vérité. Et tu peux pas dire ça parce que les gens.
C'est la même chose.
Avec ça, tu rassembles pas des voix.
C'est marrant. Tu dis quota, c'est l'immigration choisie.
Oui, non. Mais il ne dit pas qu'on aura besoin d'une immigration choisie. Il te dit, on gèle l'immigration.
Joël nous dit exactement la même chose que ce que vient de dire le ministre. Et après, il dit, oh, c'est quand même dingue que le ministre ne dise pas ça. Alors qu'elle dit la même chose que lui.
Je voudrais pas paraître arrogante, mais la communication, ce sont des mots, d'accord,
ouais.
Et l'ordre dans lequel tu le mets induit une certaine réaction.
Okay.
Quand tu commences par dire on gèle l'immigration, tu sais à qui tu t'adresses quand tu dis ça. Par contre, quand tu commences à dire, nous aurons besoin d'une certaine immigration,
il dit que c'est pour absorber le trop plein entre guillemets, si je comprends bien, d'immigration pour pouvoir mieux intégrer. C'est-à-dire que si on a trop de monde à intégrer, on n'y arrive pas. Et donc, une fois qu'on aura intégré ceux qui sont là, on pourra de nouveau mettre une
politique. Il n'a pas été ministre de l'Intérieur aussi, Gérald Darmanin.
C'est qu'on sent qu'on rentre dans la présidentielle.
Voilà.
Il le dit lui-même, il est candidat pour 2027.
Dans la même interview, une proposition d'un moratoire sur l'immigration et une quasi-candidature à la présidentielle de 2027. Ça ressemble à beaucoup de campagnes déjà, et c'est effectivement quelqu'un qui a été aux responsabilités pendant longtemps et qui ne l'a pas ni fait ni même proposé son moratoire. Donc
Après, il y a un petit souci, c'est qu'on peut pas à la fois accepter d'être dans un pays vieillissant qui ne fait plus d'enfants avec des trains réservés aux adultes et en même temps se dire il faut plus d'immigrés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'on choisisse. Aujourd'hui, si la population continue à croître en France, c'est uniquement c'est grâce aux immigrés, puisque sinon on sera en déclin. Il y a plus de décès que de naissances.
Oui.
Donc là aussi, il y a un petit paradoxe. Les Français ne veulent pas d'immigrés. Dans tous les sondages, ils ont un regard très dur sur l'immigration, mais en même temps, les Français ne veulent plus.
J'interviens sur le propos d'Olivier Truchot. Je rappelle qu'il y a quelqu'un que je crois que tu connais, qui s'appelle Olivier Truchot, qui il y a 5 minutes nous a dit que les immigrés étaient surreprésentés dans le chômage. Donc, ce n'est pas en faisant venir des immigrés sous-qualifiés, dont une bonne partie ne travaille pas, que tu vas payer tes futures retraites.
Parce que les trois filières d'immigration légales, en un, c'est les visas étudiants, en deux, c'est le regroupement familial, et en trois seulement, c'est le travail. La plupart des immigrés qui viennent chez nous, c'est pour étudier.
Et rajoute aussi le droit d'asile, par le biais du
regroupement familial. Voilà. Effectivement, tu n'as pas forcément une main-d'œuvre qualifiée.
Et oui.
On va continuer cette discussion avec Amadou du côté de la Marne. Il est commercial. Nous serons avec Anthony qui est responsable d'exploitation du côté du Val d'Oise aussi. Donc, on vous attend au 32-16 avec cette proposition de Gérald Darmanin. Il souhaite un moratoire sur l'immigration. Enfin, dire stop pendant 2 à 3 ans. Mais après, comment est-ce qu'on dit stop à l'immigration? Comment est-ce que tu taries le flux migratoire? Ça, on continuera d'en discuter avec vous, bien évidemment. Mais on va d'abord accueillir Stéphanie du côté de Villeurbanne. Bonjour Stéphanie.
Allô, Stéphanie. Bonjour.
Bonjour Stéphanie, c'est vous qui avez été tirée au sort. C'est vous qui gagnez les vacances Bellambra, Stéphanie. Félicitations.
Oh, c'est magnifique.
Vous gagnez les vacances Bellambra, un séjour d'une valeur de 2000 euros à la mer ou à la montagne dans les clubs et hôtels Bellambra. C'est le tout compris premium. Ça veut dire que vous êtes pris en charge totalement, ma chère Stéphanie.
C'est magnifique. Vraiment, je suis très émue parce que je vous écoute depuis toujours. C'est un grand honneur de vous parler.
Eh ben, ma chère Stéphanie, regardez, c'est votre coup de chance du jour. Bravo, félicitations.
Bravo à vous.
Vous choisirez où vous voulez partir, avec qui vous voulez partir. Vous restez en ligne. Le standard vous reprend. On va vous expliquer les modalités, puisque c'est vous qui avez gagné le séjour Bellambra, le séjour tout compris premium. Et puis, on vous en fera gagner tout au long de la semaine dans les GG, dans les grandes gueules. Allez, dans
vos vacances
instant
sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Et dans un instant, suite de notre discussion avec Amadou et Anthony sur le stop immigration pendant 3 ans que demande Gérald Darmanin.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec, n'oubliez pas les podcasts, et les podcasts, vous suivrez le feuilleton du vol du scooter de Charles. Vous aurez aussi l'ami Jean-Loup Bonamy qui craint que interdire les réseaux sociaux pour les jeunes soit aussi une atteinte à la liberté d'expression.
Je crains qu'on découvre qu'en fait le scooter de Charles, c'est moi qui l'ai...
Il y a tes empreintes dessus. Voilà, revenons exactement à notre discussion sur ce que demande Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui a été ministre de l'Intérieur et qui aimerait qu'on stoppe l'immigration pendant 3 ans. Amadou, bonjour.
Oui, allô, bonjour l'équipe, vous allez bien?
Bienvenue Amadou. Alors, qu'en dites-vous?
Moi déjà, il y a pas mal de choses qui ont été dites et moi en tant que fils d'immigré déjà, il y a des choses qui m'hérissent les poils à chaque fois que j'entends certaines personnes parler sur votre plateau télé, mais pas que sur votre plateau télé. Et déjà, je voudrais dire qu'en fait, que pour moi, l'immigration c'est une chance en tant que fils d'immigré. Et en fait, moi je pense que déjà Joël, elle a totalement raison. Je pense que il aurait fallu être déjà le plus honnête possible dès le départ, c'est-à-dire de parler d'immigration choisie, parce qu'on a beaucoup de secteurs d'activité. On a des problèmes de tension, de métiers en tension, on a besoin d'immigration. Mais là, il a voulu en fait, parce que c'est pendant...
Vous avez entendu ce qu'il a dit Darmanin? Il a dit que si on payait mieux, on réglait ses problèmes, c'est ce qu'il a dit.
Mais il a tort, parce qu'on l'a vu avec la restauration, les restaurateurs ont augmenté les salaires de pas mal de personnes, c'est pas pour autant en fait que ça a attiré certaines personnes. Je pense qu'il y a des métiers où en fait, ou en France, où en fait, il y a certaines personnes qui ne veulent pas faire certains métiers. Je pense que même si tu payais 3000 euros un éboueur, je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont te dire en France, j'ai pas envie de faire éboueur. J'ai pas envie de me servir.
Oui, c'est des métiers difficiles.
Voilà, je préfère rester derrière un bureau, derrière un ordinateur, etc. Et en fait, il y a une chose aussi que je voudrais dire, c'est concernant les chômeurs, parce que j'entends beaucoup de personnes dire oui, mais en fait, dans l'immigration, il y a du chômage. Je pense que vous oubliez un certain angle mort dans votre discours, c'est le travail au noir, parce qu'il y a beaucoup de personnes que même moi que je connais qui sont immigrés, par exemple, qui n'ont pas de carte d'identité, pas de carte de séjour, mais par contre, qui travaillent au noir, qui font pas mal.
Oui, mais ça s'inscrit au chômage. Là, on parle des chiffres officiels. Des gens qui s'inscrivent au chômage.
Oui, mais ce qui veut dire, c'est qu'ils ne sont pas allongés dans le canapé.
Vous pouvez être inscrit au chômage, vous pouvez être interdit de travailler pour telle ou telle raison et être inscrit au chômage. En fait, moi, je pense qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même sac.
Ce que je veux dire, c'est que l'immigration du travail n'est que la troisième raison d'immigrer en France. La première, les étudiants. La deuxième, c'est le regroupement familial. Et troisième, c'est le travail. Quand on dit oui, mais l'immigration, c'est pour travailler, c'est plus complexe que ça. Voilà, ce que je veux dire.
Excusez-moi, juste un dernier point et je voudrais rajouter ça aussi, ça concerne en fait le débat sur l'immigration. Parce que moi je pense que aussi en France, on a un vrai problème, c'est que le débat sur l'immigration, en fait, il est relié directement au débat sur l'identité nationale. Et en fait, en France, on a...
Il est surtout relié au débat sur la sécurité. Ouais, hein.
Allez-y.
Non, surtout sur l'identité nationale.
Oui, mais ce que dit pas Darmanin. Darmanin, il dit pas ça.
Non mais je dis pas ce que Darmanin dit ça, mais je dis qu'en fait qu'on a le débat sur l'immigration, il est tellement passionné parce qu'en fait il est aussi relié à l'immigration, parce que ce qu'on a d'autres qui parlent de grand remplacement, il est lié à l'identité nationale. Et je pense que en France en fait il y a beaucoup de personnes de la classe politique qui tiennent des discours racistes qui ne font pas.
Oui mais le problème c'est que Amadou. Oui mais le problème c'est que si. Oui mais je suis d'accord avec vous. Le problème c'est que quand il y a des gens raisonnables.
Une personne comme Joël ou moi, je suis désolé, on écoute certaines personnes. ne nous considère pas comme des Français.
Oui, donc, mais Amadou.
Moi, excusez-moi, on ne va pas bouger. Mais... Moi, je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose à votre antenne. Je ne compte pas partir de la France. Donc.
Mais Amadou, personne n'a dit qu'il fallait partir de la France. Mais Amadou, le problème, c'est que si des gens raisonnables, et je pense que Gérald Darmanin est quelqu'un de relativement raisonnable, il est ministre de la Justice, lui-même par son parcours, on ne peut pas l'accuser d'être quelqu'un anti-immigré, etc. Il dit simplement, il faut réguler. Mais si les gens raisonnables ne peuvent pas tenir des discours, bah forcément, vous laissez les gens déraisonnables le faire. Joël. Et avec la démagogie et
à
des choses
qui ne peuvent pas... À partir du moment où ces gens rentrent en campagne, ils deviennent déraisonnables.
Mais il n'est pas déraisonnable.
Donc, ils deviennent déraisonnables dans leur discours, c'est-à-dire qu'ils courent après un certain électorat. Donc, Darmanin a beau être quelqu'un raisonnable, si on part comme ça, dès qu'il rentre en campagne, bien sûr, il va présenter les choses d'une certaine façon. Et la façon dont il présente la chose, c'est une façon qui vient contenter les personnes qui vont plutôt voter pour Ciotti ou Marine Le Pen.
Donc on ne fait rien.
J'ai pas dit qu'on ne fait rien.
Parce qu'il y a Marine Le Pen et Ciotti, il ne faut pas aborder le sujet.
Je n'ai pas dit qu'on ne fait rien. Je dis juste qu'ils disent exactement ce qu'il veut faire et pas en donner un tout autre angle. C'est tout.
Non, mais c'est terrible. Moi, je trouve ça terrible.
Je suis fille d'immigrés, donc c'est pas un sujet tabou.
D'être en 2003, on en est toujours au même point. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit, faut peut-être qu'on se calme un peu sur l'immigration, il y en a qui hurlent, le racisme, etc. Je veux dire, on n'avance pas si on fait ça. On voit bien qu'aujourd'hui, l'immigration est hors de contrôle et que ça crée des problèmes dans la société. Il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, moi, je trouve que ce moratoire, s'il est faisable, ça n'est pas une mauvaise idée.
C'est marrant parce que moi, c'est pas sur la mesure en elle-même, c'est la façon de la présenter. Et vous venez me dire, comme si j'étais contre la mesure. Moi, je suis pour une immigration choisie. Ici, j'ai déjà dit que j'étais, un, pour des statistiques ethniques, je suis la seule à dire ça sur ce plateau, et deux, pour une immigration choisie. Donc, ne me faites pas un procès inutile. Moi, je dis juste que la façon, l'angle par lequel il prend le sujet est pour contenter une certaine droite.
D'accord,
et
mais
une
fois qu'on
droite,
a dit ça, on aurait pas réparé le problème. Tous les pays, même des pays proches de nous, comme la Suède, qui a été un pays social-démocrate, ont pris des mesures parce qu'en Suède, j'ai appris ça ce matin, le statut de réfugié. En fait, il y a eu des abus, c'est-à-dire qu'on l'a accordé trop facilement et ils se sont rendus compte que 79% de ceux qui avaient obtenu un statut de réfugié, donc qui fuyaient officiellement le pays parce que c'était invivable, retournaient en vacances dans leur pays d'origine. Donc si c'est donc
ils sont pas du tout réfugiés.
Donc ils sont pas réfugiés. Eh bien ils ont mis des règles et c'est la Suède.
Bien les règles.
Donc, non mais je veux dire en France les Français ont l'impression qu'il n'y a pas de règles et que c'est open bar.
C'est n'importe quoi.
Mais
c'est n'importe quoi. Mais aller dans les préfectures, il y a pas de règles. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous croyez que c'est facile?
Tous les jours,
c'est facile de venir en France.
Tous les jours, il y a
c'est hyper facile d'avoir des papiers en France. Mais qu'est-ce que vous? Mais allez parler à des gens qui font la queue depuis 6 heures du matin devant les préfectures à Bobigny. Vous allez voir si c'est facile.
Mais peut-être parce qu'on on n'emmerde pas les bonnes personnes.
Oui, mais arrêtez de raconter aux gens que c'est facile d'avoir des papiers en France
en cas,
et que c'est facile d'immigrer en France.
Dit ça.
Que c'est open bar. La France, c'est pas open bar, c'est pas vrai. Il y a des règles d'immigration.
C'est quand même beaucoup.
Il y a des règles d'immigration
en
France. Donc ne dites pas aux gens que c'est zéro règle. Chacun peut immigrer comme il veut, etc.
Elles sont respectées, Joël, les règles.
Elles sont respectées.
Il y a énormément. Comment tu expliques entre 600 000 et 800 000 chacun? On a Anthony qui veut réagir.
Comment tu expliques
32-16? Bonjour, Anthony. Attendez,
ta mesure ne concerne même pas les
Donc si on ne parle même pas des clandestins, ne sont pas respectés.
Eh bien d'accord, mais ce qu'ils nous proposent, c'est pas une lutte contre la clandestinité. Ils nous proposent une politique migratoire.
Anthony, bonjour Anthony, pardon.
Pardon Anthony.
Oui, bonjour les GG.
Bonjour.
Alors, qu'en dites-vous?
Alors moi je pense qu'ils regardent, je suis comme Amadou, vous regardez les choses par le mauvais côté. Là, moi je suis responsable d'exploitation dans les services à Paris. Bon, on est d'accord que là, quand tu veux stopper l'immigration, c'est l'immigration extra-communautaire, hors Europe. Vous avez à peu près 10 ou 15 000 Brésiliens avec des papiers portugais. Une carte d'identité portugaise, ça vaut 200 balles. Donc, ils passent par le Portugal, ils passent par l'Italie, ils passent par la Belgique, j'en ai tous les jours. Tous les jours. Donc, ils viennent du Cap-Vert, ils viennent du Brésil. Donc,
quel type de travail ils viennent chercher en France, c'est quoi?
Tous les travails, en ce moment, dans mon entreprise, on doit avoir 500 offres en permanence à France Travail qui sont pas, où personne nous répond. Donc, tout ce qui est nettoyage, sécurité, travail dans les hôtels, restauration, tout ce que les gens qui sont au chômage ne veulent pas faire sur des salaires assez bas, en fait.
Ah oui, c'est ça.
Ouais. Bah, les salaires sont trop bas.
Alors, mais moi, j'ai une question.
Nos salariés sont étrangers ou d'origine étrangère. avec des papiers légaux. Mais en concurrence avec des clandestins qui viennent du Brésil, du Cap-Vert, ou qui ont des papiers portugais, italiens. Donc comme derrière, les préfectures contrôlent rien du tout, vous pouvez raconter ce que vous voulez, vous empêcherez jamais les migrants de venir. Le gros souci qu'on a, c'est que de toute façon, on a besoin d'eux. Puisque une fois que les gens sont légalisés ou français, hein, les deux, ils ne veulent plus travailler. Puisque le travail ne rapporte pas en France. Donc après, si vous voulez une immigration choisie, ben, faudrait peut-être construire des écoles dans ces pays. Parce que le problème, il vient de là aussi. C'est que vous avez des gens qui viennent, qui sont absolument pas formés, qui savent ni lire, ni écrire, qui ont dans leur culture une énorme différence avec nous. Alors que s'il y avait des écoles là-bas, ça serait beaucoup plus simple.
Au Brésil, il y a des écoles. Brésil, il y a des écoles, mais ils viennent essayer de chercher quand même une vie, ou au Cap-Vert aussi, mais une vie meilleure en France, Jean-Loup.
J'ai une question que j'aurais aimé poser à Amadou. Vous nous dites, on en a besoin.
Plus là,
voilà, que j'aurais aimé poser. Donc,
Anthony.
Et donc, je vais poser Anthony. Vous dites, on en a besoin pour le travail. Bah, ok, très bien. Dans ce cas-là, on est d'accord que toute personne immigrée en France qui n'a pas la nationalité française et qui ne travaille pas doit immédiatement quitter le pays. On est d'accord là-dessus?
Je suis d'accord avec vous.
On est d'accord. Donc, et en fait, ceux qui ne travaillent pas constituent une bonne partie des immigrés. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'immigrés qui travaillent, et comme vous l'avez dit, on peut en avoir besoin dans certains secteurs, mais il y a aussi beaucoup d'immigrés qui ne travaillent pas, et qui même sont en France de situation légale. Donc, on est d'accord que tous ceux-là, déjà, doivent partir immédiatement.
Non, mais c'est beaucoup plus facile de rentrer en France que de trouver du travail, puisque nous,
ah oui, mais dans ce cas-là, si t'as pas de travail, tu rentres pas en France. Ou alors tu pars si t'en trouves pas. Tu entres, tu n'en trouves pas, tu repars immédiatement.
Mais alors attendez, justement, on a un autre Anthony
problème
qui est
réglé
avec nous des Hautes-Alpes. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Vous êtes un peu sur la même ligne que Jean-Loup, quoi, en fait. C'est d'abord la remigration avant l'immigration, quoi, en fait. C'est
alors,
ça.
Tout à fait. Alors, et avant qu'on me taxe de raciste ou quoi que ce soit, allez parler un peu aux Mahorais de la remigration.
Voilà.
Eux, ils en ont un peu marre des Comoriens. Donc c'est trop facile à chaque fois de noyer le débat.
Facile de se cacher derrière les Mahorais. Hein.
Allez demander aux Algériens s'ils sont contents de l'immigration africaine.
On essaie de tuer le débat comme ça facilement.
Aux Iraniens. Allez demander aux Turcs.
Il y a deux problèmes avec l'immigration, c'est que un, la plupart des immigrés qui viennent en France, ils sont effectivement peu ou pas qualifiés et ils font une pression sur les bas salaires. Ça, c'est une certitude. Et le problème qu'il y a, c'est que ils ont quand même, ils font des pressions ici, notamment mettons sur, moi je le vois dans mon quotidien. Les logements sociaux, la priorité quand même est donnée aux étrangers. C'est pas normal, quand même.
Mais c'est quoi encore?
Et après, il y a aussi un certain nombre de meurtres par rapport à l'immigration. À l'immigration extra-européenne, faut mettre les points sur l'île, bas souhaité.
C'est quoi le texte de loi qui dit que les logements sociaux vont en priorité aux étrangers? C'est quoi ce texte de loi?
Moi, je connais pas le texte. Moi, c'est ce que je constate dans mon quotidien, ce que j'ai amené à travailler régulièrement. Et moi, c'est ce que je vois. Et le problème qu'il y a aussi, c'est qu'il y a un changement de mœurs et de culture en France qui, pour moi, ne passe pas. Je suis désolé. L'immigration extra-européenne, pour moi, ça me pose un réel souci. Voir des femmes voiler en France, ça me pose un problème. Voilà. Je suis désolé, ce n'est pas mon pays. Et c'est un changement de culture et ça ne me plaît pas. Donc, avant de penser, le débat qu'il y a actuellement par rapport à ce qu'il parlait de l'immigration, c'est un débat qui va se poser à 30 ans. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut parler remigration.
Premièrement, je pense qu'il faut dire la vérité. On ne parle pas de... Ce qui dérange, ce n'est pas l'immigration extra-européenne. Ce qui dérange, c'est l'immigration africaine. Voilà, il faut dire la vérité. Parce que extra-européenne, vous avez peut-être des Australiens qui vont venir immigrer, des Américains qui immigrent.
Des Américains qui immigrent en France, Joël, c'est pas quand même la majorité.
Je dis pas que c'est la majorité, je dis que quand on dit que ce qui dérange, c'est l'immigration extra-européenne, ce n'est pas vrai. Ce qui dérange, ce sont des Noirs et des Arabes. On va dire ça plus clairement, comme ça tout le monde va bien comprendre. Donc, il faut que les gens puissent assumer leur position et arrêter de nous raconter des salades. Donc là, ce que ce monsieur dit, c'est encore des salades. Sur le logement social, j'y ai travaillé pendant 11 ans, voilà encore des salades. Donc en fait, les gens s'appuient sur des salades pour nous dire qu'il ne faut pas d'immigration. Moi, je dis qu'un pays, doit protéger ses frontières, un pays doit choisir les personnes qu'il veut accueillir et par contre, ne pas faire de populisme dessus.
Merci aux deux, Anthony, d'avoir été dans notre discussion. Stopper l'immigration pendant 3 ans, oui ou non? Quelle est votre opinion? Je pense que c'est majoritaire à 88%. Allez, dans un instant, on va terminer avec une photo prise dans un avion. C'est un selfie pris par une délégation parisienne qui part à Auschwitz. Mais enfin, ils se prennent un selfie comme s'ils partaient à Djerba. Alors là, franchement, est-ce que c'est la honte?
Ouais, Disneyland.
Vous venez en discuter avec nous au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Il nous reste 10 minutes à passer ensemble avant de passer la main à Estelle Denis pour Estelle Midi avec toute son équipe et le débat va continuer en direct jusqu'à 15h. 10 minutes avec Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, Charles Consigny, l'avocat et Joël Dagosséry, la coach des buts, pour regarder ensemble une photo. Une photo qui a été postée sur les réseaux sociaux par une équipe municipale parisienne et par Jean-Luc Romero. On connaît bien ici, on l'a souvent reçu pour son combat sur la fin de vie. Qu'est-ce que dit cette photo? On les voit dans un avion avec écrit en rouge sur fond rose pâle. Départ pour visite des camps de la mort de Auschwitz-Birkenau avec Anne Hidalgo. Et on voit toute la délégation dans l'avion.
Dont la fameuse Jeanne d'Auxerre.
Au premier rang, on voit Jean-Luc Romero, c'est lui qui a posté sur ses réseaux sociaux cette photo. À côté, il y a Jean-Marc Germain qui est le compagnon d'Anne Hidalgo, son mari, qui est député européen socialiste. Vous avez Anne Hidalgo qui est encore maire encore pour quelques semaines. Et derrière, vous avez Jeanne d'Auxerre qui est maire du 8e arrondissement, qui d'ailleurs n'a pas été réinvesti par Rachid Alati pour des histoires de fringues, on avait parlé ici même. Et à côté, si je m'abuse, c'est Rémi Féraud, celui qui devait concourir et qui a été battu par Emmanuel Grégoire. Bref, tous ces gens-là sont très heureux, sont très heureux de partir en avion. Ce qui a choqué sur les réseaux sociaux, c'est le sourire. On a l'impression qu'ils partent effectivement à Djerba, alors qu'ils vont visiter l'un des camps de la mort. Alors ce matin, Emmanuel Grégoire, chez des confrères concurrents, expliquait qu'il avait eu Jean-Luc Romero et qu'il était mortifié par la réaction après ce joyeux selfie posté lors d'un déplacement vers les camps de la mort.
Jean-Loup, écoutez, moi je trouve que c'est un non-débat. Voilà un non-objet. Voilà, oui, c'est maladroit par rapport à la légende, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'il avait fait cette même photo dans Auschwitz, devant la porte d'Auschwitz. Là, on aurait pu dire qu'il y avait quand même
Encore heureux quand même.
Non, mais on est d'accord, là, il y aurait eu un problème. Mais là, écoute, ils sont dans un avion, c'est une délégation, on croirait d'ailleurs un peu la délégation dans Don Camillo du Parti communiste italien de Pépone, qui se rend à Moscou. Bon, bah là, ils se rendent... voilà, ils sont dans un avion, ils se prennent en photo dans un avion, c'est un peu maladroit par rapport au titre, évidemment, mais c'est quand même pas l'affaire du siècle. Et voilà, enfin,
c'est une maladresse pour toi.
Oui, c'est une maladresse. C'est exactement ça. C'est une maladresse. Et on va se détendre. Détendons-nous. C'est une maladresse.
Charles, je suis assez d'accord. Je suis quand même surpris parce que je trouve que le charisme de Rémi Féraud irradie complètement la photo, écrase totalement les autres. Et je suis surpris qu'il n'ait pas gagné face à Emmanuel Grégoire. Ça, je le dis en passant, parce qu'il a un côté comme ça. Sean Connery qui, voilà.
Entre Sean Connery et Stallone.
C'est
un peu Stallone. On dirait c'est Rambo qui va au Vietnam,
des
là.
Des faux airs d'Obama.
Ouais, des faux airs d'Obama.
Et pourtant, pas de succès. C'est vraiment étonnant. Deuxième élément, je suis d'accord avec Jean-Loup. Je pense que c'est une maladresse. Je ne tomberai pas sur Madame Hidalgo. Je pense que c'est une connerie. Je suis même pas sûr que les autres sur la photo aient su que Jean-Luc Romero comptait la poster sur les réseaux sociaux.
Est-ce que c'est pas ça l'erreur, Joël? C'est-à-dire qu'on fasse une photo souvenir d'un déplacement. Mais là, Jean-Luc Romero la poste, donc elle devient publique avec des personnalités publiques. Tout à l'heure, on disait il faut interdire les réseaux sociaux aux enfants aux moins de 15 ans. Mais peut-être qu'il faut interdire les réseaux sociaux à certains adultes aussi.
Aux politiques, il faut interdire les réseaux aux politiques.
Il faut quand même signaler que cette maladresse nous coûte de l'argent parce que ces gens-là, je veux dire, cet avion... Ça a été affrété avec nos tutunes. Donc,
c'est Nicolas qui paye.
Exactement.
C'est Nicolas qui paye le voyage.
Et j'ai envie de savoir quel est l'objet de ce voyage. Est-ce que c'est justifié que nos impôts...
C'est que des élus parisiens, que ce mari de la mer.
Voilà, que nos impôts aillent dans ce voyage. Que vont-ils faire à Auschwitz? En quoi c'est profitable à la France? Enfin, moi, c'est plus ces questions-là que je me pose. Ensuite, oui, c'est une maladresse. Voilà. Mais tu vois, nous, par exemple, on se prend pas en selfie quand on va dans le Nord en déplacement parce qu'on sait que c'est sinistré. Donc, Pardon.
Wow. Alors là,
Pardon.
Alors là, il va falloir faire une déloc
Je les embête. Je rigole, on va être obligé d'aller.
Ah oui, là, on va en déloc à Béthune.
À Dunkerque, chez
les avions ne se posent pas dans le Nord parce que les conditions météo ne le permettent pas.
Non, on adore nos amis du Nord. On adore nos
amis du Nord.
Mais est-ce que, d'une manière générale, en fait, on perd un peu le sens du commun. Enfin, tu vois, de.
Mais non, mais ils sont déconnectés.
La common decency.
Mais
oui, parce que la décence commune. Il y en a pas. Lui, il se dit pas, tiens, non, on fait quand même un déplacement. C'est pas du tourisme. Tu vois, on va visiter. Et je crois que moi, je l'ai pas fait, mais tous ceux qui ont visité Auschwitz, tu en ressors pas indemne. Tu vois, c'est quelque chose de puissant, de dur, etc. Et là, on a l'impression que c'est une colonie de vacances.
Oui, c'est ça.
Et ils sont entre eux.
Ils vont en classe de.
C'est la petite en bande de la mairie de Paris. Et ils se disent pas, tiens, ayons un peu de décence. C'est ça, il n'y a pas le réflexe, en fait.
Oui, mais ils y sont pas encore, Auschwitz. Ils sont dans un avion.
Ouais, enfin, ils y vont pour ça.
Vois, ils y sont oui, mais pas encore sur les lieux quand même, du
quand
crime.
Oui, mais tu vois, quand tu prends l'avion pour Auschwitz, par exemple, moi, si je vais avec des copines pour un voyage qui est censé être un peu.
Grave.
Un peu grave, je veux dire, c'est pas pareil que quand on va en voyage à Ibiza. Tu vois, on se comporte pas pareil.
Mais c'est une connerie. Il n'y a pas d'autre mot. Ils ont fait une connerie. C'est une connerie. Ils auraient dû s'abstenir. Faut arrêter de faire des selfies débiles toute la journée aussi.
Mais faut arrêter de communiquer.
Voilà, c'est ça aussi.
Mais c'est ça, en fait.
Faut
c'est
arrêter que avec ces selfies complètement cons.
Aujourd'hui,
permanent.
Tous ces responsables, ils passent aussi leur temps à se mettre en scène. Et au bout d'un moment, tu te mets tellement
le
en scène.
Le président, le premier d'ailleurs.
Que tu en oublies la réalité des faits, des endroits où
puis
tu pars.
Plus les
le
trucs.
Plus important, tu vois. Puis alors, il y a tout qui est, tu l'écris en rouge, sur fond rose.
Il y a rien
tout
qui
le
va.
Monde sourit, tu vois. Il y a rien qui va. Donc tu sais plus. Parce que pour ces personnalités, en fait, postent toute la journée. Et donc elle poste finalement ça se banalise.
Oui, alors,
et quel que soit l'endroit où tu vas, tu le postes de la même manière.
Non, mais Alain, c'est peut-être aussi parce qu'il est peut-être. Ce qui est important, c'est pas d'aller voir le lieu, c'est de dire qu'on va aller le voir aussi.
On a William qui veut réagir. Ouais. Il nous appelle de Belgique. Bonjour William.
Bonjour monsieur.
Vous l'avez vu passer la photo aussi.
Oui. Je l'ai vu ce matin en direct. Oui. Moi j'y suis allé il y a un an et demi pendant les vacances d'été parce qu'on a fait le tour de la Pologne avec ma compagne vu que nous sommes à 25% d'origine polonaise, on s'est dit qu'on allait voir un peu notre pays du côté de notre grand-mère. Et nous avons fait deux camps de concentration, celui de Majdanek et celui d'Auschwitz. Mmh. Et je déconseille fortement Auschwitz aux gens parce que c'est vraiment Disneyland, en fait.
Ah, bon.
C'est suivre un chemin et regarder tout le monde faire des photos. Et on a
ah ouais, tout le monde fait des photos.
Ouais, on n'a pas pu nous le visiter en visite libre, on doit suivre des guides. Et on est des groupes de 40, et en gros, il faut avancer parce que le groupe de derrière est là. Donc, il n'y a pas le temps.
Donc, ça perd de la solennité, de la gravité du lieu, quoi, en fait.
Oui,
c'est ça, William.
Ouais, franchement, par contre, je conseille vraiment aux gens qui veulent vraiment se recueillir de la Majdanek. Parce que Majdanek, c'est vraiment prenant et intense. Il n'y a rien, tout est rasé, on voit des corbeaux partout, il n'y a personne. C'est très, très, très malaisant. Puis à Auschwitz, même quand on est devant les cheveux des personnes qui ont été rasées à l'époque, c'est derrière une vitre, tout le monde fait des selfies, alors qu'il n'y a écrit pas de photos, et ça perd tout son sens. Quoi.
C'est, moi, voilà. C'est dégueulasse attitude.
Moi, je vais faire une remarque sur Auschwitz et sur ce qui est choquant à propos d'Auschwitz. Non, moi, je n'y suis pas allé. J'aimerais y aller parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Mais moi, ce qui me choque dans Auschwitz, c'est que l'an dernier, on a commémoré les 80 ans de la libération d'Auschwitz. Par qui est-ce que les prisonniers ont été délivrés? Oui, par l'armée rouge soviétique. Et on n'a pas invité la Russie pour des raisons de base politique, alors que c'est la Russie. C'est la Russie qui a délivré les prisonniers.
C'est
la Russie qui a. Il y a eu 25 millions de morts soviétiques.
Oui, oui.
Contre le nazisme.
Non, Poutine est engagé dans une guerre qui a déjà fait plus d'un million de morts.
Et alors, c'est une raison pour ne pas rendre hommage aux soldats de l'armée rouge?
Non,
et aux 25 millions de morts soviétiques.
Rendons hommage à ceux qui sont morts, mais pas à Poutine. Poutine
est. Et vous êtes au courant également que parmi les Ukrainiens, il y a des groupes néo-nazis? Aussi.
Voilà, tu du côté. Voilà, mais... pardon, Jean-Loup, tu vois, c'est dommage.
C'était bien jusqu'à présent, à
11h50. C'était bien,
c'est un fait.
C'est le dérapage.
Moi, je pense qu'on doit rendre hommage aux 25 millions de morts soviétiques de l'armée rouge.
On n'a jamais dit le contraire.
Et c'est normal d'inviter la Russie, même si on est en désaccord avec elle sur l'Ukraine. Même si on condamne ce qui se passe en Ukraine. C'est normal d'inviter la Russie.
Mais moi, je voulais revenir à ce que nous disait William. Je sais pas, vous êtes sur les réseaux sociaux, William, ou pas?
Oui, mais j'y vais comme ça, quoi, juste pour
D'accord. Je veux dire, ça vous serait pas venu à l'idée au moment où de votre périple en Pologne, à chaque fois que vous étiez devant un camp, de vous prendre en photo, en selfie, et de dire j'y suis?
Non, moi j'ai fait des photos de souvenirs pour ma maman, vu que c'était son papa qui était polonais. J'ai fait des photos, par exemple, quand on est avant de rentrer dans le camp, les rails où on les amenait, mais vous voyez, mais on ne voit pas dessus, quoi. J'ai pas fait de selfie avec ma compagne pour dire, ouais, c'est la fête, les Juifs sont morts, quoi. Enfin, faut être un peu intelligent quand même, quoi.
Merci William d'avoir été avec nous. Donc William, ce témoignage, lui qui est allé à Auschwitz, c'est-à-dire que le lieu malheureusement avait perdu un peu de sa solennité parce qu'il y a une espèce de tourisme historique qui s'est développé sur place.
Je voudrais dire un dernier truc juste aux habitants du Nord parce qu'ils vont m'écrire, je les connais. Ah Joël, c'est inadmissible et tout. J'aime tout le monde, vous le savez, voilà. J'aime Vanné.
Mais t'as fait des émissions avec nous dans le Nord.
Ah mais complètement. Et d'ailleurs, j'adore Lille, Amiens, Dunkerque aussi où j'ai
été. Les frites, tu aimes les frites?
J'aime les frites.
Noël parle. Tu aimes le croque-monsieur là? Comment on appelle ça? Tu sais qui est noyé dans le fromage? Le Welsh.
Mais c'est bon, ça.
C'est bon,
ça.
J'adore ça.
Sauf la avec pluie une bière, et
avec
le froid.
Plaisir et modération.
Carbonarade.
On se retrouve demain. Demain, comment t'appelles ça?
Non, c'est pas ça.
Alors, parce que t'en as la carbonarade. Une carbonade.
Oui,
carbonade
flamande. C'est à la fois des pâtes.
Carbonarade.
Vous connaissez pas?
Nouvelle recette.
Le flamenco. C'est un truc italien, mais du nord d'Italie.
Barbara Lefebvre, Yves Candebord et Didier Giraud seront avec nous demain. Vous avez les podcasts à votre disposition. Vous n'oubliez pas, passez une bonne journée. Bonjour Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG. Ben, nous, on va parler de cette proposition de loi d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Bonne ou mauvaise idée, selon vous, vous nous dites tout au 32-16. On parlera également de ces établissements de plus en plus nombreux, ces cafés à Paris qui interdisent les gens avec ordinateur portable. Vous savez, c'est
inadmissible.
Bah bien sûr, bah vous savez, c'est ces gens avec ordinateur portable qui viennent, ils boivent un café en 10 heures et ils squattent le café.
Oui,
Non, mais faut pas faire ça.
D'ailleurs, tu consommes quoi?
Ah non, je consomme mes chocolats chauds, j'en prends un, voilà.
Et tu restes une heure?
Ouais, ça peut une heure.
Une heure, un chocolat. T'imagines la rentabilité pour le café?
Mais attendez, il n'y a pas de rentabilité. C'est le vivre ensemble, messieurs.
Le vivre ensemble, alors que tu es devant ton ordi avec tes écouteurs et que tu fais une réunion et qu'on entend tout à côté.
Ah non, c'est pas de réunion. Moi, c'est vraiment pour faire du travail très concentré de fond.
Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, on se posera quand même cette question à midi et demi. Est-ce qu'il faut interdire les ordinateurs portables dans les cafés? On parlera de voitures électriques également à 13h30. Rouler en électrique, est-ce que pour vous, c'est l'enfer ou le paradis? Voilà, il y a de plus en plus de voitures électriques en France, mais le marché ne décolle pas.
Je m'arrête, je la regarde passer.
Alors moi j'ai fait 500 km en voiture électrique ce week-end, comment vous dire?
C'est rechargé en combien de temps?
Eh bien j'ai eu quelques problèmes de recharge. Tout n'est pas encore nickel, vous voyez.
C'est une aberration de faire des longues distances avec un véhicule électrique.
Oui, enfin je ne veux pas non plus louer une voiture quand je pars en week-end, excusez-moi quand même. Donc c'est bien pour les petits trajets, moins pour les grands.
T'as quoi comme chignole?
J'ai une Mini Iceman.
Ah oui, c'est vrai, la dernière Mini.
C'est un peu plus gros que la Mini, mais un peu plus petit que le Countryman. Voilà, 350 km d'autonomie. Enfin, constructeur, autant vous dire que c'est plutôt 310-320. Voilà, non, c'est bien, mais pour les longs trajets, c'est compliqué. Bref, on en parlera à 13h30. Et puis, 95% des Français ont déjà rêvé de prendre un congé sabbatique. Est-ce que vous seriez prêt à tenter l'expérience? Voilà, faire une pause. On appelle ça la micro-retraite aux États-Unis.
Et le tu préfères?
Et le tu préfères, c'est l'anniversaire de Michel Sardou aujourd'hui.
Bien sûr.
Michel a 79 ans. Donc nous allons nous poser la question. Tu préfères Renault ou Michel Sardou?
Renault. Michel Sardou.
Renault.
Team Sardou, Renault. Président.
Renault.
Renault, d'accord.
Renault.
Alain, de la grande musique comme Sardou. Ça devrait te plaire. Ah ouais, d'accord.
Moi, Renault.
Et Joël, il hésite.
Ah oui, d'accord. Sardou, c'est peut-être un peu plus entraînant, on va dire.
Ah oui.
Il va falloir
oui,
Moi, je préfère début soirée.
Bonne émission.